Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Audrey et Karine ont fait le choix de vivre un rêve, celui de tout quitter pour partir à la découverte de la planète et de ses habitants. Audrey est l'œil et Karine la plume. Vous retrouverez les récits de leur pérégrination sur leur blog, Rêve et Sac à dos. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises sur les routes, d'abord en Chine, puis au Vietnam. Dans votre émission Regarde ailleurs, je vous invite à découvrir l'histoire et le projet de nos deux voyageuses que vous pourrez peut-être rencontrer vous aussi au détour du monde. Alors moi j'aime bien ce que tu me disais ce matin, t'as commencé à me dire « Waouh, ce matin il y avait de la neige !»
Ouais, il y avait de la neige et moi j'adore la neige, surtout en montagne. Et je me rends compte que c'est vraiment ça qui me fait triper, la neige en montagne.
Mais alors on est où? On va peut-être un petit peu poser le décor, laquelle des deux, avant de parler de votre projet, j'aimerais juste que l'une des deux me parle de l'endroit où on est.
Mais on est à Shangri-La, dans le Yunnan, à l'ouest de la Chine, dans une ville malheureusement brûlée, mais... Voilà, qui devait avoir une très très belle atmosphère. On voit pas de fantômes, mais ça pourrait.
Parce que là, ça fait un peu bout du monde. Un décor un peu comme ça, charmant, mais en même temps un peu désuet, un peu abandonné. En même temps, il n'y a pas grand monde dans la ville. Donc on imagine un peu comme ça. Et moi, j'aime bien aussi la part de mystère, en fait. C'est pour ça que je me renseigne jamais avant d'aller quelque part, parce que je préfère découvrir, éventuellement lire après. Pour dire, ah oui, j'avais senti ça quelque part.
C'est vrai que c'est un peu une ville fantôme. Personne dans la rue, personne dans les guest houses. Il fait nuageux, on est à 3200 mètres d'altitude et on n'est pas trop loin du Tibet. Donc c'est dans le Yunnan, mais c'est à la frontière de la région autonome du Tibet.
Bon, le Tibet, nous, on n'ira pas. On prendra pas le temps. On a le temps, mais on le prendra pas parce qu'on redescend sur le Vietnam. Mais quand même, on sent un peu de Tibet, effectivement, ici.
Alors voilà, c'est ça. Je vous ai rencontré il y a quelques temps dans une guest house. C'était à Yangshuo, en Chine, dans une guest house où vous faisiez du work away. J'ai compris que vous étiez blogueuse, que vous étiez partie pour un tour du monde. Et j'aimerais que l'une des deux me présente un petit peu le projet.
Alors le projet, en fait il y a plusieurs choses dans le projet. Le projet au départ c'est un tour du monde, vraiment dans le but de voyager. Voilà, ça c'est la première chose. Et à l'intérieur de ce voyage, il y a deux pôles on va dire. D'un côté il y a effectivement ce work away. Alors le work away c'est un échange en fait au départ. Qui s'opère entre des hôtes et des volontaires, merci Audrey, et l'échange c'est en échange une somme de travail, ça peut être de 4 à 7 heures d'ailleurs selon, contre l'hébergement et la nourriture. Alors parfois on demande quand même aux volontaires un peu de frais, souvent en fait, si on est sincère, souvent. Nous on n'en a fait que 4 jusqu'à maintenant, 3. 4, et sur les 3, on nous a demandé de l'argent, quand même. Mais bon, nous, on a choisi ça pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'un tour du monde, ça coûte très cher, ça coûte beaucoup d'argent. Le fait de passer par le workaway, bah, ça réduit le budget, forcément. Ça permet aussi d'arriver dans une famille, plutôt que dans un hôtel lambda. Et puis, bah, ça permet de rencontrer les gens beaucoup plus facilement, en fait. Donc ça, c'est la première partie du voyage. Et la deuxième partie, qui est la plus importante, c'est les rêves des enfants. Donc on va, partout où on va interviewer les enfants pour leur poser une question qui est très très simple et à la fois très compliquée, qui est « Quel est ton rêve ?» Voilà, donc tous les enfants qu'on rencontre, on fait pas ça n'importe comment non plus, on n'interviewe pas les enfants dans la rue, mais tous ceux qu'on a, qu'on côtoie un peu, on les interviewe et on leur demande... Cette petite question.
On reviendra un petit peu plus tard sur cette partie du projet, mais je vais m'intéresser au tour du monde et à l'initiative, à l'origine. Comment est-ce qu'on décide de tout lâcher pour partir faire un tour du monde? C'est quand même un sacré choix, c'est une sacrée décision, on lâche pas tout comme ça.
Alors dans notre cas, c'est assez marrant parce que c'est justement, c'est tout lâché, en fait. On avait un projet d'entreprise très concrète en France, avec on était parti pour acheter un restaurant, se mettre un petit peu là-dedans. Et puis, au final, la vente n'a pas eu lieu, puisque le propriétaire a décidé de plus vendre. Et on s'est retrouvé un peu comme ça, en se disant, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bon, chaque année, on voyage un petit peu, un mois, deux mois, trois mois. Et puis, on était comme ça, assises dans une terrasse de café. Et on dit, bon, si on faisait un tour du monde. Ouais, allez, on fait un tour du monde. Et puis, c'est vraiment parti de cette idée-là, comme ça. Plus sur une plaisanterie, presque, au départ. Et puis, c'est de suite devenu très concret. On a vraiment, on s'est vraiment laissé porter par l'idée. Et voilà. Et puis, bah, après, on a commencé à coucher sur papier un minimum d'organisation, parce que 2 ans de voyage, ça s'organise un peu. Même si on laisse beaucoup de place à l'imprévu, ça s'organise un peu.
Vous êtes parti là pour 2 ans, faire un tour du monde, mais au-delà de ce tour du monde, il y a aussi ce blog qui est né en même temps. Donc, comment est-ce que l'idée du blog est arrivée ?
Alors, en fait, non, à peu près en même temps, parce que ce projet d'interview des rêves des enfants est venu quasiment en même temps. Ça faisait très longtemps qu'on avait envie de mener à bien un projet artistique en commun. Et puis, bah, on avait aussi, quand on fait ce genre de choses, c'est aussi pour le raconter. Et c'est vrai que le blog, ça permet de raconter un petit peu tout ça, de montrer ce qu'on fait, de le partager. C'est vraiment la première notion importante dans le blogging, à mon avis, c'est le partage. C'est d'avoir envie de faire découvrir des choses aux autres et d'en apprendre aussi, puisque généralement, quand on blogue, on est aussi lecteur de blog.
Tu pourrais me définir ce que c'est qu'un blog, Karine ?
Alors, moi, je vais te donner le nom du blog. Ça s'appelle Rêve et sac à dos. Et après, l'explication, c'est plutôt Audrey.
Audrey, c'est quoi un blog ?
Un blog, ça pourrait. Un blog, c'est comme un site internet en fait. La nuance, c'est que il y a beaucoup plus d'interaction avec les gens. Quand on poste un article sur un blog, on va le faire aussi pour avoir des commentaires, pour avoir des avis, pour toucher les gens. Et ça, ça. On crée une communauté, en fait, en créant un blog. On essaye de fidéliser des lecteurs et d'avoir des retours sur ce qu'on produit directement, en fait. C'est un petit peu la version moderne du journal, sauf que on a en direct live, on va dire, les réactions des gens, en fait, tout simplement.
Mais c'est un vrai travail que d'entretenir son blog, rédiger ses articles, réaliser des photos, les publier, trouver une connexion internet quelque part dans une guest house. C'est bien un voyage dans lequel on s'inscrit dans une dynamique de travail finalement.
Oui, ça c'est complètement vrai, et c'est vrai aussi que, enfin, moi c'est vraiment pas mon univers. Pour le coup, moi je suis encore carnet crayon, et c'est vraiment l'élément essentiel de mon écriture. Mais le blog, on s'est tourné vers ça, donc faut jouer le jeu.
Ouais, est-ce qu'on peut s'improviser blogueuse comme ça?
Oui, on peut s'improviser blogueuse. Maintenant, c'est vrai que comme on disait précédemment, c'est vraiment un travail. Ça change un peu notre manière de voyager, le fait de bloguer. Effectivement, on parlait de connexion internet. Aujourd'hui, quand on rentre dans une guest house, une des premières questions qu'on va poser, est-ce que vous avez une connexion Wi-Fi ? Chose qui n'était absolument pas le cas avant. Avant, on allait dans un cybercafé, on envoyait un mail aux copains, à la famille, ponctuellement. Aujourd'hui, c'est plus le cas, parce qu'on a un blog. Et quand on veut jouer vraiment le jeu... on s'improvise blogueuse, oui. Maintenant, si on veut le faire de façon semi-professionnelle ou professionnelle, il y a quand même un vrai travail derrière. Thank you.
Le blog s'appelle Rêve au sac à dos. Je vais vous revenir un peu sur l'itinéraire du projet. Donc, comment est-ce qu'on va construire son itinéraire ?
C'est simple. On achète une carte du monde, on la déplie et on se met comme deux gamines autour et on se dit « Bon, alors on va où ?» et on pointe du doigt. Et on pose le doigt, on irait là, on irait là. Dans un premier temps, on va partout. Et puis après, il faut faire un choix. Donc le choix, il se fait assez facilement, finalement, parce qu'on couple aussi... Déjà, une chose est sûre, c'est qu'on voulait les 5 continents. Par rapport au projet d'interview des enfants, c'était important pour nous d'avoir les 5 continents. Donc ça, c'était une certitude. Et après, à l'intérieur des 5 continents, mais on couple aussi avec des choses qu'on a envie de voir personnellement dans le pays. Et puis, on a privilégié aussi des pays qu'on n'a pas vus. C'est pour ça qu'on n'ira pas au Népal. Mais donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Puis ça s'affine, on prend un certain nombre de pays au départ et puis après on change. Il n'y a pas grand chose qui a changé finalement sur l'itinéraire du début. On a remplacé 2 ou 3 peut-être, mais c'est vraiment un jeu de faire l'itinéraire.
C'est un jeu et puis après il y a une réalité qui s'impose aussi, qui est la réalité des climats. Des saisons, c'est-à-dire que ouais, c'est l'Asie du Sud-Est, c'est super sympa en période de mousson, ça l'est peut-être un peu moins. Donc voilà, l'itinéraire se construit aussi comme ça. Il faut déjà choisir un sens, est-ouest ou ouest-est. Et puis après, on affine avec les climats, on affine avec le budget aussi parce qu'il y a une réalité financière. Certains pays coûtent beaucoup plus cher que d'autres. Initialement, on devait le mois prochain, par exemple, être au Japon, et puis finalement, on a privilégié l'Asie du Sud-Est pour avoir plus de temps et plus de moyens aussi pour faire de différentes choses.
Pour monter ce projet de manière économique, donc 2 ans autour du monde, ça coûte cher. Est-ce que c'est vos propres économies ? Est-ce qu'il y avait une volonté de trouver des sponsors ?
C'est nos propres économies, financièrement, c'est nos propres économies. On a essayé de trouver des sponsors, mais très peu finalement, et on a quelques sponsors malgré tout, qui sont des sponsors, qu'on remercie d'ailleurs au passage, qui sont des sponsors en termes de matériel.
Avec une volonté aussi de réduire les coûts dans la manière de voyager, tu me parlais au début de cette interview du Workaway, ouais. Que je trouve très intéressant comme concept, j'avais jamais entendu parler de ça, vous me parliez aussi de Helpix, ça m'a fait penser un peu au Woofing, où là c'est pareil, on se retrouve dans une dynamique de travail, on va passer du temps, 3, 4, 5, 6 heures par jour à travailler, mais c'est dans une ferme. Donc le Helpix et le Workaway, c'est un peu le même concept, sauf ça n'a rien à voir avec l'agriculture.
Alors en fait, c'est beaucoup plus large. C'est-à-dire que Helpix et Workaway sont aussi 2 associations, comme le Woofing. La nuance, c'est que c'est ouvert à tout domaine d'activité. C'est-à-dire qu'on peut trouver aussi bien de l'agriculture en Workaway et en Woofing, mais on peut aussi trouver des cours de langue, on peut trouver... de la peinture, on peut trouver... vraiment, c'est ouvert à tous les domaines. Et c'est ouvert à tout le monde, voilà. N'importe qui peut devenir un hôte ou un volontaire.
Donc c'est un échange de compétences.
Voilà, c'est un échange de compétences. Ou pas, du reste, parce que certaines familles hôtes vont demander des compétences particulières. D'autres n'en demandent pas spécifiquement, quoi.
J'aimerais que vous me parliez d'une des expériences que vous avez eues en Workaway.
On a eu deux expériences marquantes. Une première avec des enfants à travers la fondation Safisha Africa, qui se trouve au Kenya à Nairobi, et qui prend en charge les enfants des bidonvilles de Nairobi, d'un bidonville particulier qui s'appelle Molem, et qui va nourrir ces enfants, les habiller, et essayer de leur donner une éducation scolaire. Voilà. Alors là, en l'occurrence, quand on arrive à Nairobi, y a Alice qui est là, qui nous attend à l'aéroport et qui nous amène chez elle, qui nous introduit dans sa famille. Et puis, petit à petit, elle nous fait découvrir son univers et sa vie qui tourne autour de ses enfants des bidonvilles. Alors, notre rôle dans tout ça, il a été double, on va dire, parce que ça fait partie des workaways, en fait, dans lesquels une contribution financière est demandée, ce qui se comprend parfaitement, parce que dans l'absolu, une fondation avec des enfants, elle n'a pas forcément besoin de toi pour fonctionner, elle a plus besoin de ton argent. Alors après, la contribution, elle est vraiment minime, hein, ça monte à 5 euros par jour, donc c'est pas énorme. Mais voilà. Et après, dans le travail, le matin, on allait à l'école et puis on enseignait les maths et l'anglais à ces petits enfants. C'est assez drôle, c'est une expérience qui était vraiment touchante parce que ces enfants qui n'ont rien, ils ont quand même quelque chose qui est essentiel, c'est une joie de vivre qui est absolument énorme.
Et pour en venir aux rêves alors de ces enfants, parce que c'est un petit peu aussi le fil rouge de votre aventure sur les deux années autour du monde, découvrir différentes cultures, différents enfants, appréhender leurs rêves. Donc au Kenya, là par exemple, pour en revenir à votre projet, c'était quoi ?
Ce qu'on attend en fait comme réponse, c'est vraiment la fantaisie. C'est vraiment la fantaisie. Et alors pourquoi on fait ça ? C'est tout simplement pour aller par la suite en fait. On fait des petits films avec ces interviews des enfants. On les fait par pays et puis à la fin, on fera probablement un grand film de tous les enfants qu'on aura rencontrés dans le monde. Mon rêve à moi, c'est précisément de constater qu'un enfant est un enfant partout où il se trouve. Et pourquoi on fait ça ? C'est surtout pour aller réveiller l'enfant chez l'adulte en fait. On revient vraiment à secouer l'adulte. Donc on utilise entre grands guillemets la fantaisie de l'enfant pour aller réveiller l'adulte, pour montrer aux adultes que bah oui, mais on a tous ça encore quelque part.
Voilà, nous on réalise notre rêve, en tout cas moi le mien, de faire un tour du monde aujourd'hui. Et puis c'est vrai que à travers ces interviews, on s'aperçoit que ces enfants, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas, ils peuvent avoir 10 ordinateurs autour d'eux ou ils peuvent ne pas avoir de chaussures. Ben en fait, peu importe, parce que cette joie et cette croyance en la force de vie, ils l'ont tous. Quel que soit le milieu de vie, le milieu social et environnemental, on s'aperçoit que cette joie, qui est propre à l'humain, en fait, on l'a tous. Et à travers ce projet, on a vraiment envie d'essayer de se reconnecter et de montrer aux gens que, voilà, quoi, que la vie, elle est belle, en fait, tout simplement.
Un tour du monde, ça paraît être un rêve un peu fou que pas mal de monde, finalement, réalise. On se rend compte, quand on est sur les routes du monde, qu'il y a énormément de voyageurs qui sont là, qu'on croise, qu'on recroise, et qui sont dans ce lâcher, quoi, hein, pour pouvoir vivre le présent. Mais un tour du monde, c'est des difficultés aussi au quotidien. Peut-être la langue, peut-être l'alimentation différente, peut-être, je sais pas, chacun y voit des difficultés différentes. J'aimerais voir un peu comment vous appréhendez ces difficultés.
Moi, je le prends comme un exercice personnel, en fait. C'est vraiment mon exercice dans ce tour du monde, de lâcher prise avec ce qui est pas important. Donc effectivement, de me reconnecter moi aussi avec cette insouciance et cette innocence de l'enfance, à savoir voilà, quelque chose arrive pas comme c'était prévu, arrête de prévoir les choses et puis tout ira bien finalement. Je crois que c'est un peu ça la leçon que j'essaye de tirer chaque jour, même si c'est pas effectivement facile, parce que il y a des imprévus tous les jours, le temps, un bus qui vient pas, le visa chinois qui nous bloque à Hong Kong pendant 10 jours. Enfin, c'est une suite de ça, finalement. Donc, pour moi, la leçon, c'est vraiment de lâcher complètement avec les attentes, parce que c'est finalement les attentes qui nous coincent dans ces tensions, quoi. Et c'est ça qui fait qu'on n'est pas bien. Donc, si on lâche tout ça, a priori, on devrait se marrer comme des mômes.
Ce que dit Karine est très juste, c'est que la déception vient de l'attente, en fait. Et plus on voyage, je pense, plus on lâche prise avec tout ça. Après, c'est vrai qu'il y a dans le quotidien, des fois, tu te dis, ah là là, je mangerais bien, je sais pas, un bœuf bourguignon ou j'en sais rien, mais non, en fait, tu vas manger ta noodle soup et puis tu seras content parce que c'est comme ça.
Et puis aussi cette notion de l'homme occidental qui a envie de toujours tout contrôler. Hein, et c'est vrai que quand on est sur les routes, on ne contrôle rien. Tu parlais du bus qui part ou qui ne part pas parce qu'il n'est pas plein. Tu parles de ton visa que tu n'obtiens pas à la frontière. Et c'est vraiment ça aussi, quoi, se lâcher, mais aussi prendre conscience que finalement, non, c'est pas bien de vouloir tout contrôler parce que ça génère de la frustration.
Carrément, c'est cette attente-là qui va générer de la frustration. Et puis plus on est frustré, plus on est déçu. Et moins on profite, on est moins dans le présent. On a commencé notre tour du monde par le Kenya. Et c'était assez magique parce que cette leçon-là, on l'a prise en plein dans la face, si on peut dire. Il y a des minibus par lesquels tout le monde voyage au Kenya qui s'appellent des matatus. Et en fait, c'est très simple, le matatu, il part quand il est plein. Bon, ben voilà. Ça, je crois qu'en fait, quand on a compris ça, on a tout compris. Il suffit juste d'attendre et puis voilà, les choses arrivent quand elles arrivent, en fait, tout simplement.
Donc t'as plus besoin de montre.
Exactement. Mmh. D'ailleurs, je l'ai moi, mais c'est parce que je l'aime bien. Elle est jolie, elle est bleue, elle est chouette.
Un Africain me disait ça, je trouvais ça très chouette. Vous, en Occident, vous avez la montre et nous, en Afrique, on a le temps.
D'ailleurs, c'est très vrai. Ils prennent beaucoup le temps en Afrique. Et c'est très plaisant, en fait. C'est très Hakuna Matata.
Avec le Kenya et ensuite on va traverser en Chine, donc j'aimerais juste avoir un petit peu les différents pays entre le Kenya et la Chine et peut-être deux ou trois adjectifs par pays.
Le Kenya, une belle surprise, c'était la première fois moi que j'allais au Kenya, j'appréhendais hein, évidemment parce que je suis occidentale donc j'appréhendais beaucoup le Kenya et en fait ma première impression, en plus c'était le premier pays, donc c'était pas évident, c'était déjà ça demandait un lâcher prise par rapport au début du voyage. Et moi mon premier ressenti avec le Kenya, c'était d'essayer de comprendre en fait comment fonctionne l'autre. On en revient à se lâcher prise quoi. Mais en fait tout, je me suis rendu compte avec ce premier voyage que tout passe par l'esprit compare en permanence. Et une fois de plus, si on lâche avec ce vouloir comprendre, eh ben on se fond dans le décor tout simplement et on s'adapte finalement très vite et très bien du reste à ce qui se passe.
Après le Kenya, on est allé en Inde, sur le sud de l'Inde. On est arrivé à Chennai et on a traversé jusqu'à Kochi. Voilà. Et trois adjectifs pour l'Inde, coloré, enivrant et bruyant.
Moi, je dirais odorant. Il y a des odeurs dans tous les sens, quoi. Agréable et pas agréable du tout. Donc moi, je dirais odorant, coloré et joyeux.
Donc on est en Inde, on quitte l'Inde pour venir en Chine, c'est ça ?
Exactement.
Donc c'est le début, en fait, là, du voyage.
En fait, oui, c'est le début du voyage. Alors, on a transité par Hong Kong pour obtenir notre visa chinois. Ça fait partie aussi des... On parlait tout à l'heure des imprévus du voyage. Hong Kong n'était pas prévu, on devait y passer deux jours. Et puis la loi concernant les visas pour les Français a changé en tout début d'année. Donc on s'y est retrouvé bloqué un petit peu plus longtemps que prévu. Et je fais vraiment la nuance entre Hong Kong et la Chine, bien qu'en termes de territoire. Parce que l'atmosphère n'est pas du tout similaire, en fait, à Hong Kong. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment différent. Le contact avec les gens est plus facile. Alors peut-être qu'Hong Kong est plus ouvert sur le monde que la Chine.
Mais même quand on dit la Chine, je pense qu'on pourrait parler des Chines, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ethnies différentes, de peuples différents. C'est combien de fois? 15, 16, 17 fois plus grand que la France. Donc il y a quand même une sacrée diversité dans ce pays qu'est la Chine. Alors on va revenir à votre blog, donc Rêve au sac à dos. Qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui si on va sur votre site?
On y trouve certains articles écrits un peu comme des récits, un peu l'histoire de ce qu'on vit à travers nos aventures au Kenya, en Inde et pas encore en Chine, bientôt. Et puis on trouve évidemment les vidéos des enfants, les premières, donc celles des enfants de notre village, puisqu'on a commencé par eux, celles du Kenya et puis celles de l'Inde depuis quelques jours. On y trouve des informations très très pratiques sur l'organisation de la vie au quotidien en voyage. Et puis la pharmacie aussi. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est quand même pas compliqué de faire une pharmacie, mais c'est un des articles le plus regardé, la pharmacie.
Parce qu'on a peur.
Mais oui, exactement, exactement. Pourtant, nous c'est pareil, c'est pas le premier voyage. On a pas mal voyagé et puis on est habitué à faire le sac et on adore ça en plus. Mais c'est vrai que quand on regarde un blog, on passe aussi par où est-ce qu'ils vont, comment ils s'organisent, qu'est-ce qu'ils prennent dans leur sac. C'est fou quoi.
Et qu'est-ce qu'on pourra trouver sur votre blog? Donc quels sont les pays qu'on découvrira au fur et à mesure de votre itinéraire?
Puis on va parcourir l'Asie du Sud-Est, donc on va faire le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge. On fera peut-être une incursion au Laos, on ne sait pas encore, on verra. Et puis après ça, on part sur l'Océanie, où on fera les îles Fidji et la Nouvelle-Zélande. Et après, on passe de l'autre côté, sur les Amériques, où on va commencer par le Brésil. Derrière, on va passer sur l'Uruguay. Et après l'Uruguay, on va s'arrêter un petit moment, on va se poser 6 mois, en fait, à Saint-Barthélemy, pour travailler, là, concrètement. Et derrière ça, on reprendra le voyage au printemps pour les États-Unis. Qu'on va traverser en fait de New York jusqu'à San Francisco et on redescendra tranquillement sur l'Amérique centrale avec le Nicaragua, le Mexique, puis l'Amérique du Sud avec la Colombie, l'Équateur, l'Argentine.
Avec toujours comme fil conducteur de s'arrêter dans les écoles ou de rencontrer des enfants pour leur demander quels sont leurs rêves.
Exactement, exactement, un peu partout. Alors pas que dans les écoles, parce qu'en fait dans les écoles on s'est rendu compte assez vite que les enfants sont formatés. D'ailleurs c'est un peu pour ça qu'on avait choisi des enfants assez jeunes au départ. Au départ on avait choisi des enfants de 5 ans, parce que là ils sont vraiment pas encore à l'école, donc c'est vraiment leur imaginaire, leur fantaisie qui parle directement, que dès qu'ils rentrent à l'école c'est plus tout à fait la même chose. En fait, on a été même ça obligé de modifier, ça fait aussi partie du voyage, parce qu'on s'est rendu compte que 5 ans, en fait, ils comprennent pas la question. Autant ils peuvent nous répondre très spontanément à cette question, autant quand on leur pose concrètement la question « Quel est ton rêve ?», ils comprennent pas la question. Donc on a modifié un peu l'âge, donc on prend des enfants maintenant entre 7 et 12 ans, et pas forcément à l'école, précisément parce qu'à l'école, ils sont très souvent en uniforme. D'ailleurs, même si on peut éviter les écoles... Moi, je préfère.
Et donc après, le problème de la langue se règle comment? Par quelqu'un qui est là pour traduire et un sous-titrage sur les vidéos réalisées?
Exactement. Donc, on a eu le cas au Kenya, on a eu le cas en Inde aussi, d'enfants qui ne comprenaient pas les questions qu'on posait. Et puis là, en fait, au fil des rencontres, comme on se pose, en fait, on se pose 10 jours par-ci, 15 jours par-là, on rentre assez facilement dans la communauté qui entoure les lieux dans lesquels on s'installe. Et on rencontre assez facilement les gens et puis on trouve de l'aide pour réaliser les interviews.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Pour une question de respect des parents et de respect des enfants, on s'adresse toujours à l'adulte responsable. Et puis après, on va chercher quelqu'un qui parle un peu bien, enfin qui parle un peu anglais et qui va nous permettre de traduire le sens aussi des questions, parce que on s'est aussi rendu compte que la notion de rêve, selon les cultures, ben c'est pas la même chose. Ça veut pas dire partout la même chose, cette notion de rêve.
Karine Audrey, merci. Donc pour vous suivre, le site
rêvesacado.com.
Et pour vous rencontrer,
oh ben quelque part autour du monde, il suffit de nous envoyer un mail.
Merci Alex.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.